RCF.
Cogiteo avec le père Jacques Versinger.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour père.
Bonjour si, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Alors aujourd'hui dans Cogiteo, on va parler d'un sujet par rapport à une question qu'on me pose souvent quand je dis que je suis chrétien. C'est comment peut-on croire en un Dieu bon puisque la souffrance et le mal existent? Donc un grand sujet, je pense. Et du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, père, c'est quelles sont les différentes interprétations que l'on a en lisant la Bible sur les origines du mal et de la souffrance?
Alors ça, c'est une question simple. La réponse risque d'être moins simple. L'origine du mal, alors dans la Bible, le mot mal n'arrive pas comme ça rapidement. Il faut remonter à la Genèse, aux origines. Hein. Et l'origine du mal, c'est d'abord, il y a du mal. Il y a du mal possible. C'est-à-dire que dans le paradis, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Donc, il y a l'idée que tout n'est pas de même valeur, qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, qui sont mal. Alors, lesquelles, c'est pas précisé, mais on peut avoir peut-être quelques indications en voyant le processus de création. Qu'est-ce que fait Dieu quand il crée? On part du principe que ce que fait Dieu est positif. Hein, j'aime bien ce principe.
On va partir sur ce principe-là.
Voilà.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que Dieu fait de bien? Eh bien, il sépare. Il y a le haut, le bas, il sépare les eaux, il met le soleil d'un côté, la lune de l'autre, il délimite la mer et la terre, il donne un rôle à chacun. Donc on pourrait dire que pour Dieu, le bien, c'est quand les choses fonctionnent avec une identité propre, et ne cherche pas l'une à faire le travail de l'autre, à prendre la place de l'autre. Chacun est reconnu dans une identité, une fonction. Voilà. Donc, tout est possible, tout le monde fait tout. Ça, apparemment, c'est pas créateur. On pourrait déjà dire le mal, c'est quand chacun n'assume pas son rôle ou voudrait le rôle de l'autre. On pourrait peut-être le définir, en tout cas, une des définitions. Hein. Donc Dieu donne des limites. Et peut-être que le mal ou le moins bien, c'est quand quand il n'y a pas de limite ou quand elles ne sont pas reconnues, qu'on déborde. Bon, ça, c'est une possibilité. Hein. Alors après, donc il y a cet ordre de la connaissance du bien et du mal. Et apparemment, cet arbre, c'est l'apanage de Dieu. Alors le mal pourrait être de ne pas laisser, entre guillemets, cette distinction revenir à Dieu en voulant décider soi-même de ce qui est bien, ce qui est mal. Alors ça, c'est une question, effectivement. Le mal viendrait de ce que moi-même, je me fais juge du bien et du mal. Et effectivement, il est probable qu'une partie importante des conflits dans le monde vient de ce que chacun s'érige comme juge du bien et du mal, et du coup s'érige en justicier ou s'érige en victime, etc. Et de fait, beaucoup, beaucoup de conflits viennent de ce que je me fais juge. Hein, et quelquefois juge et exécuteur des peines. Bon, donc ça, c'est un problème. Alors, après, l'origine donc du mal, tient, a priori, hein, là, toujours dans le récit des origines, ben, à la non-confiance en la parole de l'autre. C'est-à-dire que ben, je te dis que si tu touches à ça, c'est dangereux. Oui, il me dit ça, mais c'est parce qu'il veut garder ça pour lui seul. Et en fait, ça ne me fera pas de mal. Hein. Mmh. Donc l'origine du mal, c'est dans le refus de croire que ça pourrait faire du mal. Hein. Mmh. C'est pas grave, c'est un peu le mythe du savant fou, on dit attention à ça et ça, non non mais vous inquiétez pas, c'est pour la science, on risque rien, on avance, et puis après, ah oui mais c'est pas ça que je voulais, mais on vous l'avait dit, oui d'accord, mmh. Mais donc le problème du mal semble derrière ça s'enraciner dans la volonté de Dieu de laisser à l'homme une capacité de liberté dans le choix. Alors non pas de dire je choisis ce que je veux, mais voilà, il y a quelque chose où je te dis là il ne faut pas. Hein, je te le dis, il ne faut pas y toucher, mais en même temps tu peux y toucher. Hein, je te dis, je t'avertis, c'est dangereux. Voilà, si tu y touches, tu risques tout simplement la mort. Mmh. Hein. Maintenant, je ne mets pas de barrière, je ne mets pas de couture électrique, je ne mets pas un chien de garde devant. Si tu es capable de ne pas y toucher.
Oui, c'est comme on dit à un petit enfant, t'approches pas de la flamme, si tu touches, ça te brûle, et puis le petit enfant qui y va quand même qui se brûle.
Voilà, voilà. Alors là, Dieu estime dans l'histoire qu'on n'est pas des petits enfants, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, qu'on a bien la conscience que c'est dangereux et qu'il y a un interdit. Hein. Et en même temps, ben, je pense que mon désir, ma volonté est plus important que la confiance dans l'autre. Et donc là, c'est là qu'on va mettre l'origine du mal, c'est-à-dire dans cette rupture de la confiance en l'autre.
Hein. D'accord.
Qui fait que je me fais juge du bien et du mal plutôt que de faire confiance. Et à partir de là, bah, la confiance avec Dieu est rompue, bien sûr. Mm-hmm. La preuve, c'est qu'on se cache. Donc, à partir du moment où on se cache, bah, c'est la honte d'être découvert, la crainte de la punition et le refus d'assumer la responsabilité. Puisque quand l'homme a bien mangé, mais immédiatement, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est-à-dire, en même temps, c'est de sa faute à elle. Et quelque part, c'est de sa faute à toi, puisque si tu l'avais pas mise à côté de moi, elle ne m'aurait pas tenté, etc. Donc, ouais. Le mal semble s'enraciner aussi dans le refus d'assumer la culpabilité, d'assumer la responsabilité de ses actes, hein, qui entraîne un transfert sur l'autre. Hein. Et puisque c'est l'autre le coupable, c'est à l'autre de souffrir. C'est normal. C'est de ta faute.
D'accord.
Si je me suis mis en colère, c'est de ta faute. Parce que tu m'as énervé. Voilà.
Et du coup, comment on peut concilier justement notre croyance en un Dieu bon et tout puissant avec justement cette existence du mal c'est-à-dire, pourquoi le mal, alors j'arrive pas à faire le cheminement que peuvent avoir certains des personnes justement avec qui j'ai eu les dialogues. Pourquoi, parce qu'il y a le mal, Dieu ne peut pas exister en fait?
Alors ça, il y a du mal, donc Dieu ne peut pas exister, c'est un raisonnement un peu rapide, tout simplement parce que ça suppose d'une part que notre définition d'un Dieu bon, d'un Dieu, correspond à notre définition de ce qui est bien ou mal pour nous, déjà.
Oui, ça voudrait dire que, par exemple, j'ai pas gagné au loto, donc Dieu n'existe pas parce qu'il a pas voulu que je gagne au loto.
Bah, parce que si j'étais Dieu, je ferais gagner...
tout le monde au loto.
En tout cas, moi, on me ferait gagner au loto parce que moi, je suis bien devant Dieu. Donc, effectivement, un Dieu qui correspond plus à nos fantasmes sur ce que Dieu devrait être qu'à Dieu. D'autre part, la notion de douleur, de souffrance morale, etc. Et la question, c'est d'où ça vient. Pourquoi est-ce que j'éprouve des sentiments d'injustice, de malaise, etc. D'où ça vient? Si l'univers n'est qu'une espèce d'éternel échange d'atomes, etc., ne venant nulle part, n'allant nulle part, je ne vois pas très bien en quoi le fait que les choses naissent, existent, vivent, soient broyées ou pas, devrait engendrer du mal et de la souffrance. C'est-à-dire que quand on parle de mal, c'est toujours implicitement par rapport à ce que devrait être le bien.
Oui.
Bon. Mmh. Et cette notion de ce que devrait être le bien, d'où nous vient-elle? C'est ça la question. Hein. Si en moi quelque chose se révolte contre l'injustice, contre la perte d'un être cher, etc., alors qu'a priori il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de volonté universelle, il n'y a rien. Donc tout ce qui arrive, arrive sans aucune intention derrière, sans aucune connotation morale, sans idée de haut, de bas, de bien, de mal, de vrai, de faux, etc. D'où viennent mes révoltes? Il y a une question. Quelque chose en moi me dit que cela n'est pas normal. Et là où certains y voient la preuve que Dieu n'existe pas, puisqu'il y a des choses pas normales, et que si Dieu existait, ça pourrait être normal, moi, j'y vois l'existence même de Dieu. C'est parce que je suis fait à l'image de Dieu qu'il y a des choses que je trouve anormales et que je cherche à rectifier. Mmh. Hein? La création n'est pas terminée. L'homme est associé pour nous à la création de Dieu et une création qui est encore, je dirais, en train d'émerger du chaos et du mélange et de voilà. Donc, je ne vois pas, moi, d'opposition entre le fait que je puisse ressentir de la révolte, de la souffrance et du mal et l'existence de Dieu, j'allais dire, au contraire. Mmh. Au contraire. C'est parce que Dieu est bon et que je suis fait à son image qu'il y a des choses qui me révoltent.
D'accord. Ah ben, c'est une bonne réponse à faire du coup aux personnes qui poseront la question.
Oui, alors après, l'autre réponse, mais pourquoi y a-t-il du mal? Alors la réponse, j'allais dire, tient un petit peu dans le récit de la Genèse, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire capable de décision. Mmh. Hein? Ce qui nous caractérise, c'est notre capacité de choix.
Mmh. Notre libre arbitre. Hein?
Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de décision possible. Mmh. Hein? Les électrons tournent autour des protons. On ne peut pas dire que ça soit de l'amour. C'est une mécanique. Mmh. Hein? C'est une mécanique où il n'y a pas de choix, entre guillemets. Nous, par contre, nos relations, elles sont... alors évidemment, il y a des conditionnements, mais fondamentalement, il y a une possibilité de choix. Et donc, ce que raconte le mythe de la Genèse, c'est que l'homme, créé à l'image de Dieu, est donc capable d'une relation qui ne soit pas automatique, et qui soit l'objet d'un choix. Et le choix a été, hein, finalement, de se méfier de Dieu, de ne pas croire sa parole, et de préférer mon sentiment, mon désir immédiat, à l'obéissance à cette parole. Voilà. Et donc, ce choix entraîne, évidemment, entraîne du mal, mmh. Parce que ça entraîne une relation complètement tordue, mais la possibilité de choix en soi n'est pas un mal. Mmh. C'est pas du tout la même chose.
Oui, oui. Hein?
Voilà, le dire, j'ai tapé sur quelqu'un, c'est un mal, c'est parce que Dieu m'a fait des mains et donc non, Dieu m'a fait des mains, mais la main elle pourrait être
tendue plutôt que servir à être frappée.
Voilà, je peux tendre la main plutôt que frapper. Donc la possibilité de choix est inscrite dans la nature humaine. Mmh. Et donc c'est la capacité de faire le bien. Ou de ne pas faire le bien, hein, de me choisir, moi et mes intérêts propres, ou de choisir l'autre. Ça c'est une grande partie de ce qu'on appelle mal. En fait, c'est tout simplement l'application de ma liberté.
Cogiteo, avec le père Jacques Versinger.
Je voulais qu'on continue sur la question, parce que l'émission aujourd'hui, donc, c'est sur le mal et la souffrance.
Oui.
Sur la question de la souffrance. Et aujourd'hui, comme du moins aujourd'hui et depuis leur écriture, comment les récits bibliques, tels que l'histoire de Job, à laquelle je pense, abordent-ils justement la question de la souffrance?
Après, la souffrance, c'est un univers, la souffrance. Hein. Il y a vous savez que la souffrance, au départ, ce sont des signaux. J'éprouve une souffrance quand mon corps ou mon âme m'envoie des signaux comme quoi telle situation est anormale ou n'est pas prévue, n'est pas répertoriée, est excessive. Hein. Donc voilà, et quand le signal s'intensifie, ça devient souffrance. Voilà, c'est-à-dire que je m'approche d'une flamme, ben, j'ai un signal qui me dit, tiens, ça chauffe, ça fait du bien. Si je m'approche un petit peu trop, ben, ça brûle. Et puis, si je laisse ma main sur la flamme, ben à la fin, ça ne brûle plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terminaison nerveuse, je ne sens plus rien. Bon, c'est vite vu. Donc, il y a la souffrance en soi, c'est un indicateur qui me signale que quelque chose sort de l'ordinaire et doit être rectifié. Maintenant, il y a une souffrance qui consiste, qui est bonne, qui est bonne parce qu'elle m'indique que là, il y a des choses à revoir. Par exemple, la souffrance, quand je vois une injustice, m'indique qu'il y a quelque chose à rectifier. Hein. Maintenant, on peut ne pas écouter les signaux. Où les signaux peuvent, être tels que je n'entends plus rien et que je suis perdu. Hein, c'est oui. Voilà. Quelquefois, ça nous lance dans des. C'est le problème des symptômes et du diagnostic. Moi, j'éprouve des symptômes. Et le médecin, lui, va me dire, voilà en fait ce que ça signifie.
Oui.
Mais moi, j'ai mal. Je ne sais pas forcément ce que ça signifie. La personne qui se révolte, comme je le disais tout à l'heure, là, parce que il y a eu une mort, par exemple, etc., et qui ont déduit donc que Dieu n'existe pas. Je dis ce symptôme me montre au contraire que Dieu existe et qu'il est bon, puisque nous n'arrivons pas à trouver normal des choses de ce genre. Hein. Et alors après, la souffrance, on peut l'interpréter différemment. Hein. Par exemple, un bouddhiste pourrait me dire qu'en fait, la souffrance vient simplement de ce que j'ai des désirs et que l'idéal, c'est de ne rien désirer. Voilà, puisque si je désire quelque chose et que je n'ai pas, ça me fait souffrir. Si je désire pas quelque chose et que ça me tombe dessus, ça me fait souffrir, etc., etc. Donc, l'indifférence est la source de la fin de la souffrance. Bon, ça, c'est la version bouddhiste. Enfin, je vais très vite. Hein. Si les amis bouddhistes qui m'entendent, ils peuvent faire tous les correctifs qu'ils veulent. Ça y est, je volontiers. Mais la version chrétienne, c'est qu'il y a des souffrances qui peuvent être bonnes. Alors, non pas que Dieu prenne plaisir à la souffrance, mais qu'il y a des choses, des êtres qui valent la peine qu'on souffre pour. C'est l'exemple parfait, c'est Jésus. Ça vaut la peine de donner sa vie pour ses amis.
Ouais.
Voilà. Il y a des... Bon, les parents, etc., savent très bien que des fois, ça vaut la peine de faire des efforts et de souffrir pour les enfants. Hein. Le souffrir pour est quelque chose qui, dans la foi chrétienne, est tout à fait compréhensible. Hein. Simplement, souffrir pour qu'il y ait plus de paix, de justice, de partage dans le monde, c'est, ça se défend. Se dire « je vais souffrir et ça fera plaisir à Dieu », soit ça c'est une absurdité, ça, c'est, la souffrance en soi n'a pas de valeur.
Hein. Ouais.
C'est pour ça. Si quelqu'un qui nous entend là est cloué sur un lit et souffre, et qu'il dit ben, moi ma souffrance, je vais l'offrir à Dieu en disant ben, ça me met un petit peu en fraternité avec d'autres qui souffrent dans le monde autrement, ça je peux le comprendre. Par contre, dire voilà, je vais m'infliger des souffrances parce que comme ça,
je me rapprocherai de Dieu.
Là, non, on n'est pas des perspectives, des fakirs ou je sais pas quoi.
Hein.
C'est autre chose.
Oui, l'image de l'ermite qui s'auto-flagelle pour approcher la souffrance du Christ. C'est ça quoi. C'est pas quelque chose qui est souhaité par Dieu.
Ou alors qu'on voit bouillir ceux qui viennent le voir parce que voilà, moi je me consacre à Dieu. C'est-à-dire que la souffrance de s'auto-flageller, je veux bien, mais la souffrance d'être capable de dire bonjour à quelqu'un et lui offrir une tasse de thé, ça c'est une souffrance insupportable que je ne souhaite à personne. Non, mais ça ne va pas quoi. La foi chrétienne, quand on voit la façon dont le Christ se comporte dans l'Évangile, est quand même repose sur un équilibre de vie et non pas sur la recherche d'extrêmes. Le Christ peut souffrir jusqu'à l'extrême par amour, mais c'est pas lui qui a dit au bourreau vas-y tape plus fort, quel bonheur. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe.
Et justement, dans cette question de souffrance, bon, vous évoquiez la personne malade, où on peut imaginer les personnes qui perdent un proche, ou voilà. Comment aujourd'hui l'Église et la Bible peuvent accompagner ces gens à aborder la souffrance dans leur propre vie et à vivre avec cette souffrance?
Alors, la réponse sur la perte d'un être cher, ben, c'est très simple. Très simple. Attention, je le dis de façon très simple. Je ne dis pas que c'est facile à vivre pour les gens. Mais grosso modo, dans l'Évangile, Jésus dit « elle n'est pas morte, elle dort ». C'est-à-dire que nous, dans la foi, nous disons que nous ne perdons personne. Je ne perds pas les gens, je les perds de vue. Provisoirement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Le christianisme ne croit pas aux pertes définitives. Voilà. Je dis adieu, je ne dis pas au revoir. Enfin, je dis au revoir, adieu, mais je ne dis pas pleurons telle personne que nous ne reverrons jamais et qui a sombré dans le néant. Ça ne serait pas un discours chrétien. Hein? Donc, c'est le temps... Pour moi, le temps du deuil, ce n'est pas simplement c'est pas se résigner à la perte, c'est se résigner à la perte de vue. C'est vivre au quotidien sans la présence de la personne. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas se dire, voilà, cette personne n'existe plus. Voilà le message chrétien, c'est ce que disait saint Paul aux chrétiens de Thessalonique. Ne soyez pas comme ceux qui sont sans espérance.
Oui, c'est l'espérance de croire qu'on les retrouvera un jour auprès de Dieu.
Oui, c'est fondamentalement c'est l'espérance chrétienne. Hein. Après, on peut avoir aussi des motifs de joie ou de peine à l'intérieur d'un deuil. Quand quelqu'un meurt à 95 ans après avoir une vie où il a été de multiples façons, il a pris sa place dans le monde, il a été utile à d'autres, il a été quelqu'un de bon, de généreux, etc. On peut déjà rendre grâce en disant sa vie elle s'est usée comme une bougie s'use, et puis je vais pas pleurer parce que la bougie a brillé jusqu'au bout. La bougie, elle s'est usée. Par contre, Par contre, si j'achète une bougie neuve et puis que sur le chemin elle tombe et qu'elle est fracassée inutilisable, là je suis plus déçu. Et une jeune vie, voilà, quand on porte en terre un jeune de 5 ou de 20 ans, on se dit, il y a forcément quelque chose qui aurait pu, il aurait pu prendre davantage sa place sur terre. Après, ça, c'est le secret de Dieu, comment on se revoit, etc. Mais par contre, se dire, donc, parce que sa vie s'est arrêtée, donc la mienne s'arrête, là, je crois que c'est autre chose. Mm-hmm. Hein. C'est autre chose parce que, justement, on ne peut pas dire, puisqu'une vie n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'elle aurait pu donner dans ce monde, donc, il faut que deux vies, voire même trois vies, quatre vies, enfin, toute une famille, entre guillemets, s'enterre vivante au même moment. Non, au contraire. Mmh. Je dirais, mais vivez deux fois plus. Puisque hein, ce qu'il ne pourra pas faire, faites-le pour lui.
Oui, d'accord. Hein,
faites-le en son nom. Ça me paraît plus... plus humanisant, hein, parce qu'autrement moi ça me peine des vies qui sont broyées par la souffrance de la perte qui peut être dramatique, hein, je l'entends bien, mais vivez pour l'autre, vivez votre vie sur terre pour l'autre.
Et du coup là on vient de parler de la question de la souffrance dans le deuil.
Oui.
Mais je vois l'heure qui tourne en fait. On va peut-être l'aborder dans une prochaine émission.
Les contraintes horaires font partie des souffrances.
Voilà, c'est ça, c'est partie des souffrances. On pourra évoquer la suite sur ce thème de la souffrance et du mal dans une prochaine émission, mon père.
Oui, volontiers.
Ben, chers auditeurs et auditrices, à très vite dans Cogiteo. Et à très vite, père.
Au revoir, chers auditeurs et auditrices. À bientôt, Steve.